Transformer 5000 dirhams de cire fondue directement dans une petite cuisine en une marge bénéficiaire qui frôle les 60% pour un produit physique fabriqué localement, franchement, ça ressemble presque à une anomalie économique.
Ah bah c'est clair que, vu de l'extérieur, les chiffres paraissent un peu surréalistes, ouais.
Mais pourtant, c'est une réalité tout à fait fascinante. Et aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur au cœur d'un article super intéressant de monprojet.ma, un texte qui décortique un phénomène assez spectaculaire, en fait, la façon dont le lancement d'une petite marque de bougies artisanales parfumées au Maroc est devenu un business extrêmement lucratif.
Ouais, c'est une sacrée étude de cas.
Ah, totalement. Et la mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de comprendre comment un simple passe-temps créatif à bas coût peut se transformer en une entreprise florissante qui surfe vraiment sur la vague du Made in Morocco. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord admettre une chose fondamentale. Fabriquer une bougie aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec le fait de s'éclairer pendant une panne de courant. C'est littéralement mettre un spa luxueux dans un bocal.
Un spa dans un vocal, à savoir l'analogie, elle est particulièrement juste. En fait, la bougie est passée du statut d'outil utilitaire, de secours, tu sais, le truc qu'on laissait traîner au fond d'un tiroir en attendant que le courant revienne.
Ouais, le vieux bout de paraffine tout poussiéreux, on connaît tout ça.
Exactement. Et c'est passé de ça à un véritable marqueur de style de vie. La perception de ce marché au Maroc, elle a subi une métamorphose radicale. On n'achète plus ce produit pour s'éclairer. On l'acquiert pour modifier l'atmosphère d'une pièce, en fait.
Pour créer une ambiance, quoi.
C'est ça, pour signaler une sorte de transition entre la journée de travail bien stressante et le repos, ou même juste comme un objet de déco à part entière. Et c'est vraiment ce glissement psychologique, cette transformation d'un besoin pratique en un désir émotionnel super complexe qui a complètement ouvert les vannes de ce marché.
Bon, décortiquons tout ça. Parce que pour comprendre le potentiel financier ahurissant derrière cette tendance, il faut d'abord saisir la psychologie de l'acheteur. D'après notre source, le cœur de cible, ce n'est plus du tout le foyer traditionnel.
Non, fini la bougie utilitaire pour dépanner, hein, c'est fini ça.
Voilà, là on parle vraiment des millennials, c'est de la génération Z, donc les 18-35 ans en gros. Ce sont des jeunes adultes, urbains, très actifs, qui vivent dans des métropoles trépidantes. On parle de Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger. Et très clairement, ces gens-là, ils ne veulent pas juste un bout de paraffine industrielle avec une mèche qui fume et qui noircit les murs.
Ah, surtout pas de paraffine, ouais. Leurs attentes, elles reflètent des mutations sociétales qui sont profondes. Ce segment démographique-là, il exige des produits éco-responsables. La source insiste vraiment là-dessus, l'importance des matières premières. On parle presque exclusivement de cire de soja, de cire d'abeille ou de coco.
Et des mèches en coton bio aussi, non?
Tout à fait. Des mèches en coton bio ou même en bois. Et la notion de contenant, elle est tout aussi cruciale. Le simple verre standard transparent, ça ne suffit plus aujourd'hui.
Il faut que ça en jette visuellement.
Voilà. Il y a une très forte demande pour des contenants recyclables, ou mieux encore, upcyclés. Le concept d'upcycling, pour ceux qui ne visualisent pas forcément, c'est cette idée de prendre un objet, genre un ancien verre à thé traditionnel ou une petite poterie locale, et de le détourner de son usage premier, pour lui donner une valeur supérieure.
C'est brillant, ça.
Oui, et tout cela concourt à créer un objet final qui soit à la fois éthique et, critère non négligeable pour cette jeune génération, parfaitement instagrammable, tu vois.
Ah bah, l'esthétique, c'est le nerf de la guerre. Mais ce qui me frappe le plus dans l'analyse de mon projet.ma, c'est vraiment la dimension identitaire. Il y a un rejet total des parfums un peu standardisés de supermarché.
Ouais, les fameux parfums vanille chimique ou pomme cannelle de synthèse, on oublie.
C'est ça. Le document met vraiment en lumière une quête d'identité olfactive marocaine. Les artisans, ils intègrent des odeurs super locales, de la fleur d'oranger, de la menthe sauvage, du bois de cèdre de l'Atlas, ou encore de l'argan et de la rose de Damas.
C'est très ancré localement, oui.
C'est super audacieux, je trouve. C'est un peu comme si, face à la standardisation mondiale, on décidait de prendre tout le patrimoine géographique et culturel du pays pour le mettre en flacon.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est très cohérent en fait. Ce besoin de s'ancrer dans le local, c'est une réponse directe à l'anxiété urbaine. Le mouvement global du slow living, tu sais, cette volonté de ralentir, de prendre le temps.
Ouais, la mode de la pleine conscience et tout ça.
Exactement. Ça se marie ici avec un vrai désir de renouer avec l'artisanat, face aux gigantesques marques internationales de décoration qui sont souvent perçues comme un peu froides, lisses et finalement sans âme.
Des produits de masse, quoi.
Voilà. Face à ça, la bougie artisanale marocaine, elle offre des racines. Imagine un jeune cadre stressé à Casa. Quand il rentre et qu'il allume une bougie au cèdre de l'Atlas, il ne fait pas que parfumer son salon. Ils s'achètent une vraie parenthèse d'évasion vers les montagnes, un moment de reconnexion.
C'est un point de vue super intéressant, parce que ça signifie que la véritable innovation ici n'a absolument rien de technologique. On reste sur le principe basique de la cire qui fond avec de la chaleur. L'innovation, elle est purement émotionnelle. On ne vend plus un produit d'éclairage, on vend un rituel de détente post-bureau.
Et c'est la clé de voûte de toute cette économie. En déplaçant le produit de la catégorie genre fourniture de maison à la catégorie expérience sensorielle et bien-être, on modifie complètement la disposition à payer du consommateur.
Ah oui, le budget alloué n'est plus du tout le même.
Bah non, un objet purement utilitaire, ça a un prix plafond très bas. Mais une expérience émotionnelle, un rituel de bien-être, ça n'a presque pas de limite de prix. C'est ce mécanisme psychologique hyper précis qui rend l'aspect financier de ce projet aussi redoutable.
Eh bien justement, ça nous amène à la grande question de l'exécution. Comment on passe concrètement de cette belle théorie émotionnelle à la réalité financière? Notre source détaille trois scénarios d'investissement, l'évolution typique d'un entrepreneur dans ce domaine en fait.
Ouais, l'ascension étape par étape.
Voilà, le premier stade, c'est le scénario minimaliste, celui où l'on teste le marché depuis sa propre cuisine, avec un investissement dérisoire de 5 000 à 8 000 dirhams marocains.
Ce qui n'est vraiment pas grand-chose pour lancer une entreprise.
Non, c'est sûr. Mais honnêtement, faire fondre de la cire sur sa gazinière entre la préparation de deux repas, ça ressemble quand même plus à un passe-temps salissant qu'à une vraie entreprise, non? Enfin, je suis un peu perplexe.
C'est vrai que c'est une phase très artisanale, un peu brouillonne, mais elle est stratégiquement indispensable. Ces 5000 dirhams, ils ne servent pas à bâtir un empire dès le premier jour.
Heureusement.
Ils servent à acheter les matières premières de base, tu vois, quelques thermomètres de cuisson, des moules et un packaging assez rudimentaire. L'objectif à ce stade, il est purement expérimental.
C'est pour tester les odeurs, c'est ça?
Exactement. Il s'agit de valider les recettes olfactives. Trouver le bon dosage entre la cire de soja et, disons, l'huile essentielle de fleur d'oranger. Pour que le parfum se diffuse bien, sans brûler, ben, c'est de la chimie assez complexe en fait.
Et financièrement, ça donne quoi cette phase de test?
Dans ce scénario, on vise une production modeste d'environ 100 bougies par mois, qu'on vend entre 60 et 100 dirhams l'unité, ce qui dégage un bénéfice net d'à peu près 2500 à 3000 dirhams. C'est une vraie preuve de concept à faible risque.
Alors, je veux bien croire à la preuve de concept, pas de souci, mais il y a un chiffre dans cette analyse financière globale qui m'a fait énormément tiquer. La source annonce une marge brute stupéfiante située entre 50 et 65%.
Oui, avec une moyenne estimée à 58%, c'est énorme.
Et un retour sur investissement en 6 à 18 mois. Franchement, je dois exprimer un vrai scepticisme ici. Près de 60% de marge brute pour un produit physique qui est lourd, qui est fragile, qu'il faut emballer soigneusement, expédier. C'est fou, non?
C'est vrai que ça paraît contre-intuitif au premier abord.
Bah oui. Est-ce que les matières premières sont presque données? Ou est-ce que cette marge, elle est artificielle? Genre, est-ce qu'ils ignorent des coûts cachés comme la casse pendant les livraisons de ces fameux pots en céramique ou en verre?
Ton scepticisme est tout à fait justifié. Dans la vente de produits physiques, en général, la logistique dévore complètement les marges. C'est un fait. Mais cela soulève une question importante sur la structure des coûts dans ce qu'on appelle le luxe accessible.
D'accord, explique-moi.
Eh bien, les matières premières ne sont pas du tout bon marché. La cire naturelle de haute qualité, les huiles essentielles pures et surtout la céramique artisanale, ça a un coût de revient bien réel. L'article l'évalue entre 30 et 40 dirhams pour fabriquer une seule bougie.
Donc le coût est quand même significatif.
Oui, mais la marge de 58% tient bon, même en incluant un taux de casse normal ou des frais d'emballage renforcés. Pourquoi? Parce que le prix de vente final est totalement décorrélé du coût de fabrication, en fait.
Attends, donc le client, il paye une prime massive simplement pour le positionnement de la marque.
C'est la nature même de la valeur perçue, ouais. Lorsqu'une bougie artisanale est vendue 150 dirhams, le client sait pertinemment qu'il n'y a pas pour 150 dirhams de cire et d'huile à l'intérieur.
Il ne paye pas le poids de la matière, quoi.
Voilà. Il rémunère la démarche éthique, l'esthétique du contenant qui servira de déco après, et l'histoire que raconte la marque. La marge, elle n'est pas générée en compressant les coûts de production, elle est générée par l'inflation volontaire du désir.
C'est fascinant. Donc la marge réside vraiment dans l'imaginaire du client. Bon, reprenons notre parcours entrepreneurial. Une fois qu'on a fait ses preuves dans sa cuisine et qu'on a validé ses parfums, la source décrit le scénario numéro 2, l'intermédiaire.
C'est l'étape charnière, oui.
C'est là qu'on passe à un investissement de 15 000 à 25 000 dirhams. Et pour moi, c'est souvent le passage le plus dangereux pour un créateur. On passe d'un objectif de 100 à environ 200 bougies par mois. Le bricolage sympa sur Instagram, ça ne suffit plus. Il faut créer une vraie boutique en ligne, genre sur Shopify, et investir dans une identité visuelle professionnelle. C'est un saut technique majeur, non ?
Ah, c'est massif. C'est le point de bascule, ce qu'on appelle très souvent la vallée de la mort des petits artisans.
La vallée de la mort, carrément.
Ouais, parce que passer de 100 à 200 bougies, ça a l'air de rien. Mais ça implique de gérer un vrai inventaire, de commencer à maîtriser des algorithmes de publicité en ligne, d'optimiser les frais de port avec des transporteurs locaux professionnels.
Le créateur, qui adorait mélanger tranquillement ses parfums dans sa cuisine, il doit soudainement se transformer en expert en logistique et en marketing digital.
C'est exactement ça. C'est un changement de métier. Mais ceux qui franchissent ce cap réussissent à générer un bénéfice net de 4 000 à 6 000 dirhams par mois. À ce stade, leur présence digitale devient un vrai moteur de croissance autonome, qui ne dépend plus juste de leur cercle d'amis ou de la famille.
Et pour ceux qui survivent à cette fameuse vallée de la mort numérique, il y a le troisième palier, le scénario de croissance accélérée, avec la mise en place d'un véritable atelier structuré. Là, on ne plaisante plus.
Ah, là, on passe aux choses sérieuses. L'investissement grimpe en flèche, on est entre 50 000 et 100 000 dirhams.
Et on vise 400 à 500 bougies par mois, pour un bénéfice qui dépasse les 10 000 dirhams. Mais un truc a vraiment retenu mon attention dans la liste du matériel pour ce scénario. C'est un équipement très spécifique, le chaudron à double paroi.
Ah oui, l'outil indispensable à cette échelle.
Mais pourquoi investir des sommes aussi importantes là-dedans ? On ne peut pas juste aller s'acheter de plus grandes casseroles et continuer à fondre la cire sur de plus grands feux ?
Alors non, et c'est un détail technique fascinant d'ailleurs. La physique même de la cire rend la simple casserole complètement obsolète quand tu passes à grande échelle.
C'est une question de température ?
Exactement. Si tu chauffes la cire naturelle directement sur une source de chaleur classique, de manière inégale, tu as un risque énorme de la brûler. Pire encore, tu risques de détruire complètement les molécules olfactives hyper fragiles des huiles essentielles que tu vas ajouter après.
Ah oui, l'odeur de fleurs d'oranger cramées, ça doit pas très bien se vendre.
C'est ça. Le chaudron à double paroi, lui, il utilise un principe de bain-marie industriel. L'eau ou l'huile qui est contenue entre les deux parois métalliques, elle chauffe la cuve intérieure de manière parfaitement homogène, au degré près.
D'accord, c'est super précis en fait.
Ça permet de fondre de très grandes quantités de cire sans jamais altérer la qualité du parfum final, tout en économisant des heures de manutention. C'est vraiment cet outil-là qui permet de passer d'un hobby laborieux à une production semi-industrielle fiable. Sans ça, un employé à temps partiel, que ce scénario recommande d'ailleurs d'embaucher, il perdrait un temps infini juste à surveiller que la cire ne brûle pas.
Le saut qualitatif est énorme. Mais tout ça, ça nous amène à la véritable guerre de ce secteur. Parce que si la technique pour produire 500 bougies parfaites peut s'acheter pour, disons, 50 000 dirhams, la production n'est clairement pas le vrai champ de bataille.
Absolument pas. N'importe qui avec un peu de budget peut produire de la qualité aujourd'hui.
Exactement. Le marché mondial, il regorge de gens qui sont tout à fait capables de faire fondre de la cire proprement. Le vrai défi, l'ultime défi, c'est la visibilité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est l'art de vendre l'invisible.
Vendre une odeur, ouais.
Bah ouais. Comment on fait pour vendre l'odeur fraîche d'un soir d'été à Fès ou la chaleur boisée d'une forêt de l'Atlas à travers un simple écran de smartphone ?
Eh bien, le premier rempart, c'est l'identité visuelle. La source met beaucoup l'accent sur l'intégration du zellige dans le design.
Le zellige, les petites mosaïques traditionnelles.
Oui, cette mosaïque de faïence marocaine typique avec ses motifs géométriques super complexes. L'utiliser sur le packaging, ça apporte instantanément un cachet patrimonial très fort. Intégrer juste un détail subtil de zellige sur une étiquette moderne, très épurée, ça crée un pont visuel immédiat entre la tendance minimaliste actuelle, très occidentale, et l'histoire profonde du pays.
Ça capte le regard, c'est le premier point de contact.
Exactement. Et ensuite, une fois l'œil capté, vient le storytelling. Les créateurs qui réussissent ne vendent plus une liste d'ingrédients, ils vendent le récit d'un souvenir.
Et la stratégie numérique recommandée par l'article pousse ce storytelling à l'extrême. On nous conseille l'usage d'Instagram. Bon, ça, c'est assez classique pour tout ce qui est décoration d'intérieur.
Oui, les belles photos d'ambiance, c'est la base.
Mais là où l'article m'a surprise, c'est qu'il insiste surtout sur TikTok et l'ASMR.
À l'ASMR, c'est un levier de vente incroyable pour ce secteur.
Totalement. Alors, pour clarifier ce terme pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, l'ASMR, c'est cette méthode qui utilise des déclencheurs auditifs très, très spécifiques, souvent des petits sons du quotidien qui sont amplifiés et répétitifs.
Des chuchotements, des tapotements.
C'est ça, pour provoquer une sensation physique de relaxation. Tu sais, des sortes de petits frissons agréables au niveau du cuir chevelu. Et le document suggère d'enregistrer le cliquetis d'un pot en céramique qu'on pose sur une table, le bruit bien lourd et super onctueux de la cire liquide en train d'être coulée dans le pot.
Ou même le craquement distinctif d'une mèche en bois qui brûle, comme un mini feu de cheminée.
Voilà, et pourquoi faire ça?
L'utilisation de l'ASMR, c'est une réponse brillante à un problème de physique fondamental. On ne peut tout simplement pas numériser une odeur. Puisque le canal olfactif est totalement bloqué par l'écran du téléphone, les marques intelligentes, qu'est-ce qu'elles font? Elles saturent les canaux auditifs et visuels pour compenser.
Ah, elles tronquent le cerveau, en fait.
Exactement. En diffusant le son hypnotique de la cire qui coule ou le petit crépitement de la mèche en bois, on déclenche dans le cerveau du spectateur la même réponse neurologique de détente que s'il sentait réellement la vraie bougie devant lui.
C'est fou. Le processus de fabrication lui-même devient l'outil de conversion principal pour vendre.
Le processus est le marketing, oui. C'est une inversion totale du modèle publicitaire classique où on cachait les usines pour ne montrer que le produit fini.
Mais au-delà des réseaux sociaux, la source aborde aussi la question de la distribution omnicanale. Elle évoque les marchés artisanaux pour le contact humain, le e-commerce, bien sûr, et surtout les partenariats business to business, donc le B2B.
Le B2B, c'est là que se trouve la véritable scalabilité de ce business.
Mais pourquoi l'article insiste-t-il autant sur le fait de vendre à des concept stores et des hôtels en branche? Est-ce que c'est juste pour écouler des stocks plus rapidement en gros volume?
Alors oui, mais ce qui est fascinant ici, c'est que le volume n'est que la partie émergée de l'iceberg stratégique. Bien sûr, recevoir une commande mensuelle fixe de, disons, 50 bougies pour un spa de luxe, bah ça soulage énormément la pression financière et logistique d'une petite entreprise.
T'as ton chiffre d'affaires garanti pour le mois.
C'est ça. Mais la véritable valeur du B2B dans ce secteur très précis, c'est ce qu'on appelle le transfert d'autorité. Imagine la scène. Tu as une magnifique bougie artisanale placée bien en évidence sur le grand comptoir d'accueil d'un riad 5 étoiles à Marrakech.
Avec une belle lumière tamisée.
Et le logo doré de la petite marque qui se reflète dans le marbre du lobby. Ça, ça agit comme un puissant levier d'ancrage psychologique. Par simple association spatiale, la bougie absorbe instantanément tout le prestige de l'hôtel.
Ah ouais, c'est le positionnement par procuration.
Exactement. Le client de l'hôtel qui sent cette odeur et qui voit cette bougie là-bas, il sera ensuite psychologiquement totalement prêt à l'acheter 150 dirhams sur le site web, car son cerveau l'a déjà classé inconsciemment dans la catégorie du luxe absolu.
C'est diablement efficace. Et d'ailleurs, la source ajoute une autre couche d'expertise stratégique avec la création de contenu. J'ai trouvé ça super pertinent. L'idée, ce n'est plus du tout de spammer les clients avec des promotions genre moins 20% sur la vanille.
Non, ça dévalorise la marque.
C'est ça. L'idée, c'est de leur envoyer des newsletters hyper soignés sur des techniques de méditation ou des articles de blog expliquant les bienfaits de la respiration profonde. Ça positionne le créateur non plus comme un simple marchand de cire, mais comme une véritable autorité dans le domaine du bien-être.
C'est toute la différence entre une simple transaction ponctuelle et une vraie relation durable. Et d'ailleurs, cette relation, elle est savamment entretenue par une gestion très pointue de la saisonnalité. L'analyse démontre bien qu'une marque mature ne vend pas un catalogue figé et ennuyeux toute l'année.
Elle vit au rythme de ses clients.
Elle s'adapte au rythme culturel. Par exemple, proposer des coffrets familiaux très généreux pour les fêtes de l'Aïd, ou des bougies de massage fondantes et sensuelles pour la Saint-Valentin, ou encore, très malin, des parfums spécifiquement formulés pour la relaxation après l'iftar pendant le grand mois de Ramadan.
Cette adaptation au calendrier culturel local, c'est effectivement le meilleur moyen d'éviter que le produit ne devienne qu'un achat d'impulsion hivernale, tu sais, qu'on achète juste quand il fait froid. Ça le transforme vraiment en une habitude de consommation ancrée dans l'année entière.
C'est de la fidélisation à l'état pur.
Ce qui ressort finalement de toute cette analyse détaillée du site monprojet.ma, c'est l'évolution remarquable d'un concept très brut au départ. On parle d'un projet complètement hybride, qui ne nécessite pas de diplôme complexe ou d'années d'études d'ingénieur. Ça permet de prendre des ingrédients locaux de qualité et de les transformer, grâce à de la petite chimie, pas mal de marketing digital et un storytelling redoutable, en un produit à très très forte valeur ajoutée.
C'est ni plus ni moins que la quintessence de la nouvelle économie de l'artisanat. La valeur aujourd'hui, elle ne réside plus seulement dans le travail manuel pur, bien que l'exécution soit évidemment essentielle pour garantir la qualité, mais la vraie valeur réside dans la capacité à packager une identité culturelle forte et à utiliser tous les leviers technologiques contemporains, comme TikTok, pour atteindre exactement les personnes qui recherchent cette identité.
Et ce qui est vraiment formidable pour conclure, c'est de voir que ce passage de la passion au profit, eh ben ce n'est pas qu'une abstraction théorique de marketeux. Et il y a ce détail très terre-à-terre que j'ai adoré, tout à la fin de la source, dans la section des commentaires du site.
Ah oui, le fameux commentaire, c'est très parlant.
Ouais, une lectrice nommée Safa, qui prend la parole. Elle raconte qu'elle coule déjà ses bougies chez elle, juste pour le simple plaisir d'embaumer sa maison, tu vois. Mais qu'après avoir lu l'article et découvert l'importance vitale du positionnement, eh bien elle demande activement des contacts d'artisans potiers pour se procurer des vrais contenants en céramique locale et lancer son commerce de manière officielle.
L'étincelle s'est allumée.
C'est ça, c'est la preuve en temps réel que l'information se transforme en action concrète. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Eh bien, ça révèle que derrière un objet d'une banalité absolue, comme un petit pot de cire, se cache une opportunité colossale de création de valeur, à la seule et unique condition d'y insuffler une esthétique, un usage complètement réinventé et un récit authentique.
Absolument. Et d'ailleurs, ça nous invite à une réflexion beaucoup plus large pour clore cette exploration. Si une bougie basique, dont le seul but historique c'était de pallier l'absence d'électricité, a pu être élevée au rang d'ambassadrice du patrimoine olfactif marocain et s'exporter à prix d'or, y a de quoi se demander quels autres objets familiers patientent silencieusement dans l'ombre en ce moment.
Il doit y en avoir des dizaines, c'est clair.
Mais oui. Il suffit d'observer les intérieurs et les traditions quotidiennes de notre enfance, que l'on pense aux savons noirs traditionnels bruts qui n'attendent qu'un bel écrin, aux techniques hyper complexes de vannerie locale, ou même à certains ustensiles culinaires en terre cuite qu'on néglige. Lesquels de ces objets du quotidien pourraient être réinventés dès demain s'ils étaient soutenus par un récit percutant et une distribution un peu intelligente pour s'imposer comme la prochaine grande tendance lifestyle mondiale?
C'est une excellente question.
C'est une invitation fascinante, en tout cas, à regarder tout ce qui est banal autour de nous, mais avec les yeux de l'opportunité.